on a tendance à réinventer la roue, parfois, et surtout, on a un peu tendance à être toujours tourné vers la prochaine innovation ou le prochain gadget et à oublier tout ce que beaucoup de gens brillants ont fait avant, parce que si la France est aujourd'hui un des grands leaders mondiaux en cosmétique, c'est pas seulement grâce aux talents d'aujourd'hui, même si ça y contribue, c'est aussi par tous ceux qui ont tracé ce chemin jusqu'à maintenant et qui ont apporté beaucoup d'innovations qu'on a tendance à négliger, encore une fois, parce qu'on est toujours orienté vers la dernière technologie ou le dernier gadget.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Ganaël Bascoul. Ex-chroniqueur à la radio, expert en innovation sociétale, collectionneur, entrepreneur, la marque de cosmétiques Monsieur Barbier séduit, Ganaël est un passionné au sens large. Tellement qu'il a décidé de faire renaître Cotan, une célèbre marque de cosmétiques lancée au 19e siècle et qui était totalement tombée dans l'oubli. Or, figurez-vous que Cotan a probablement été la marque de clean beauty de son époque. Franchement, je n'ai pas envie de vous spoiler plus. L'histoire est dingue, je vous laisse la découvrir. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Ganaël.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous?
Alors Ganaël, entrepreneur, j'ai lancé il y a 6 ans la marque Monsieur Barbier, cosmétique pour hommes, et on relance cette année, 150 ans après, la marque Cotan. Et je suis aussi un fidèle auditeur de Beauty Toaster.
Ouais.
Et merci. De Radio Nova, on en parlait
oui,
en coulisses.
On en parlait. Ouais, puisque vous avez été chroniqueur.
Alors dans mes vies passées, ouais. J'ai été docteur en Decision Science, prof à l'ESCP. S'il y a des anciens étudiants qui m'écoutent, je les salue. Je les remercie pour leur présence assidue. J'ai lancé Soon Soon Soon, qui est un média collaboratif sur l'innovation sociétal qui a donné lieu à une chronique avec Armel M sur Radio Nova. Et c'est des très bons souvenirs de radio qui sont remontés à la surface en voyant le beau studio dans lequel on est aujourd'hui.
Ouais. Le studio de Morgane. Et alors, comment vous est venue cette idée de relancer Cotan?
Alors, j'ai un petit péché secret, c'est que je suis collectionneur d'anciens objets liés à la cosmétique, principalement des objets du 19e. Et c'est vrai que j'ai une pièce même dédiée, c'est l'avantage de vivre en province, à cette collection qui doit faire 2000 pièces. Et très souvent, quand on repère la trajectoire des marques, elles ont été à un moment absorbées par un grand groupe, ou elles sont devenues elles-mêmes grandes, mais elles ont changé de nom. Donc c'est très rigolo de retracer un peu cette préhistoire de la cosmétique moderne. Et très souvent, je tombais sur cette marque Cotan qui m'interpellait parce que, par exemple, pour l'invitation à l'exposition de Paris 1900, il y avait une annonce qui décrivait « Si vous souhaitez avoir des produits non nocifs, naturels et qui entretiennent la biologie de votre peau, retrouvez-nous à la parfumerie Cotan ». Donc on aurait dit un peu une uchronie à la Philippe Cadic, mais le mec parle de la clean beauty avec la photo de la Tour Eiffel qui était toute neuve à l'époque.
Ouais, ouais.
Et bon, j'avais un coup de cœur pour cette marque-là, et donc c'est vrai que j'avais une section dédiée à cette personne-là sans aller plus loin parce qu'il y avait très peu d'infos en ligne. Et un jour arrive le confinement, c'est très difficile de faire du business, comment le faisait-nous à ce moment-là, parce qu'on travaille beaucoup avec les retailers pour Monsieur Barbier, et à ce moment-là, ils étaient fermés. L'export qui commençait à marcher pour nous était bloqué aussi. Et arrive la question de se dire avec la team, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait l'option chômage partiel, on fait le Laurent, etc. Ou l'option un peu bullish, qui est dans mon caractère, de se dire...
C'est-à-dire
on est en difficulté, on va doubler la mise, voilà.
Ouais, d'accord.
Donc, si vous voulez, j'ai une vieille maraude qui est de relancer cette marque qui était celle d'un précurseur. Mais j'ai très peu d'infos. Et on va oublier les Google, Instagram, etc. On va rentrer dans Gallica, qui est le moteur de recherche de la BNF, dans Retro News, qui est une sous-section de ce moteur de recherche dédié à la presse, donc toute la presse qui est scannée. Et on va explorer un peu plus loin l'œuvre de cet entrepreneur. Et là, très vite, on s'est aperçu que de la partie immergée de l'iceberg, on va dire, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait un catalogue d'une vingtaine de produits, que beaucoup étaient innovants pour l'époque, qu'il avait un grand succès aussi, c'était l'époque de Guerlain, Moulinard, etc. Mais en termes de chiffre d'affaires et de distribution, il était au printemps, il avait sa boutique rue de Rivoli, il était exporté aux US. Donc on s'aperçoit de tout ça à partir des premiers éléments accessibles, on va dire. Et là arrive la troisième couche qui est de dire il faut aller au-delà de ce qui est disponible. Et on commence à embaucher une généalogiste,
oui,
Myriam Provence.
Oui, voilà, parce que ça, il faut pas oublier cette partie qui est super intéressante. C'est-à-dire que ouais, vous avez fait appel à
oui, alors,
une généalogiste.
Comment on fait ? On tape sur Internet, revue française de généalogie, on regarde le board et on se dit, on va les appeler. Extrêmement gentils, ils sont habitués pour les grandes maisons, y compris celles qui existent aujourd'hui, hein, d'aller chercher dans des archives qui sont non numérisées, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est online, mais ce n'est pas le cas. Et donc ils sont allés dans les archives notariales pour voir les transmissions de parts d'entreprises, qui nous a donné une idée de ses associés, de son chiffre d'affaires. Et aussi dans les archives des tribunaux de commerce, parce qu'avant, il faut savoir qu'on pouvait déposer une formule, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt un ingrédient ou un mix d'ingrédients. Et qu'on a pu, comme ça, avoir accès aux formules manuscrites par Jean-François Arsène-Cotan, le fondateur initial, avec ses petits conseils de formulation et de préparation. Et là, on est rentré dans une dimension où on a réalisé qu'en fait, avec les moyens de l'époque, ils faisaient en effet des produits naturels, clean, etc., mais sur des squelettes de formules complètement différents des formules actuelles.
Okay.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, quand on fait du naturel, on va prendre la formule et trouver des substituts, ingrédients par ingrédients, des alternatives naturelles, mais en gardant la même base de formule ou le même type de produit. Alors que là, ça nous permettait de prendre le problème sous un tout nouvel angle et de proposer des alternatives aux toniques avec un vinaigre de beauté, des alternatives à la crème hydratante avec une crème vanishing, etc., etc. Et à partir de là, bon, on s'est dit que c'était peut-être un peu grand pour nous et on a fait appel, on a élargi le cercle un peu de cette mission-là, toujours en plein confinement, en prenant notre téléphone pour demander de l'aide à d'autres experts qui nous ont aidés dans cette aventure.
Ouais. Alors, on va revenir justement sur Cotan et son origine. Alors, qui est la personne qui l'a créée et quelle était la particularité de cette marque, en fait, par rapport à des marques qui existaient à l'époque ?
Oui, alors, ça a été créé par Jean-François Arsène-Cotan en 1840. Les prémices étaient, en 1838, le fait qu'il a inventé, en pleine crise du choléra, j'allais dire
c'est
du coronavirus.
Oui.
Mais bon, il y avait des évocations qui étaient intéressantes. Un petit mouchoir antiseptique qui permettait de se protéger un peu l'ancêtre de
notre masque,
parce que son père était tailleur avec une boutique au Palais Royal. Il commence à s'intéresser à cet aspect hygiéniste, qui était le grand siècle de l'hygiénisme, bien sûr le 19e, où on découvre tout ça. Et pour aller plus loin, il crée la société hygiénique de la parfumerie Cotan. C'était le nom un peu pompeux et pas très marketing de l'époque, avec l'idée que les produits d'hygiène qu'utilisaient les gens tous les jours, et de plus en plus, parce que c'était les nouvelles habitudes d'hygiène, étaient potentiellement abrasifs, nocifs, mal composés, etc. Et donc, il s'associe avec son beau-frère qui est médecin, avec un pharmacien, ils réunissent un petit colloque d'experts et ils se disent comment on peut améliorer cette approche des produits de tous les jours pour proposer des produits plus sains. Et c'est vrai que, pour le coup, c'était très avant-gardiste. Ça a donné lieu à des produits qui non seulement étaient intéressants intellectuellement, mais aussi commercialement. Très rapidement, de sa petite boutique rue Jean-Jacques Rousseau, il a eu un très bel immeuble au Châteaudun, jusqu'à la parfumerie rue de Rivoli, l'usine à Courbevoie. Et la distribution dans les grands magasins. C'est une marque, quand on regarde les archives, qui avait une très belle exposition et qui était très appréciée, souvent recommandée, etc. Et qui a un peu disparu et un peu tombé dans l'oubli, notamment d'après moi, parce que c'était des produits de tous les jours. Donc les packagings étaient beaucoup plus fragiles que des belles bouteilles de parfum. Il y avait peut-être moins le glamour du maquillage ou du parfum de grandes maisons qui ont perduré dans le temps. Et surtout, pendant la Première Guerre mondiale, en 1919, l'usine a brûlé. Ils essaient de redémarrer l'entreprise avec des parfums dans l'entre-deux-guerres. Arrive la grande crise de 1929 et la marque disparaît complètement dans l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, la seule trace qu'on peut trouver sur Internet, c'est des résultats de ventes aux enchères dans les salles des ventes sur les bouteilles de parfums qui étaient... superbes et très prestigieuses, qui ont été éditées justement dans l'entre-deux-guerres au moment de la relance.
D'accord.
Mais sinon, on ne trouve pas grand-chose d'autre. Et après, disparition complète. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour recréer la page Wikipédia, pour lui redonner sa place dans l'histoire, parce que relativement à l'importance qu'il a eue en termes d'histoire de la cosmétologie et aussi de belles maisons avec une belle réussite commerciale, c'est très paradoxal de voir que le nom de Coton a disparu des radars.
Surtout que c'était quand même une marque plutôt haut de gamme, on va dire.
Premium, on va dire, pour l'époque. C'était les grands magasins, bien sûr, c'était un peu bourgeois, mais il n'avait pas la prétention de faire une marque de luxe. C'était plutôt, voyant que les gens avaient une hygiène beaucoup plus avancée et que cette hygiène était très importante en termes de skincare. Ça aussi, c'est bon à rappeler même aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier geste de soin, c'est le nettoyage, l'exfoliation et l'hydratation quotidienne, au-delà de tout sérum miraculeux. Donc, c'est vrai que lui, voyant ça émerger, il a beaucoup travaillé à former cette catégorie. Et puis aussi, c'est une période que moi, j'aime beaucoup à titre personnel, en dehors de Coton, parce que c'est la période où la cosmétique est passée des recettes de grand-mère ou des arrière-boutiques des apothicaires en bidouillant des trucs à une vraie science ou un vrai art, qui est la formulation. Pourquoi un art ? Parce que c'est quand même un mélange de science et aussi de savoir-faire. On ne sait jamais, quand on prépare une formule, à quoi on va aboutir, sa stabilité. Ça.
Carrément.
Donc, c'est pour ça que quand on a relancé la maison, on a mis en tête sur le blason comme slogan le nouvel art formulatoire pour faire écho à l'art nouveau où tout se chamboulait dans tous les domaines et à cet art formulatoire qui lui tenait à cœur.
Ok. Et alors, faire renaître une marque, ce n'est pas refaire à l'identique, hein, surtout quand on a deux siècles qui séparent la naissance et la renaissance. Alors, quels sont les défis que vous avez dû relever ?
Alors, bizarrement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes en termes de squelette de formule et de produits oubliés. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a préservées sur, par exemple, le vinaigre de beauté qu'on relance, mais qu'on met aussi un peu au goût du jour, sachant que dans notre rêve, on aurait fait évoluer les produits comme eux les auraient fait évoluer.
Okay.
Voilà, c'est un exercice de style. Ouais. Donc le vinaigre de beauté devient un vinaigre micellaire pour être sûr qu'il soit non délipidant pour la peau, qu'on garde cet équilibre-là et qu'il ait ses doubles fonctions. Les ingrédients du savon ont un peu évolué. Par exemple, on utilisait souvent la pierre ponce, mais même très finement broyée. Voilà, ça peut être un peu irritant pour la peau, donc on utilisait un autre ingrédient, mais qui était aussi utilisé à l'époque, qui est la poudre de riz.
Okay.
Donc, une série d'ajustements, mais sur le squelette des formules, l'idée était de les respecter et de proposer des produits qu'on ne trouve plus aujourd'hui, alors qu'ils ont toute leur pertinence par rapport aux enjeux de naturalité et même de peau sensible, parce qu'ils ont tous été testés comme étant compatibles aux peaux sensibles, qu'on rencontre pour les années à venir.
Ouais. Et alors, quand vous avez vu certains produits de la marque, certaines formules, est-ce que vous vous êtes dit, finalement, on n'invente rien
Alors ça, bon, je vais reprendre les mots du grand maître qui nous a aidés, qui est Jean-Claude Lejolif. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été une personne qui a beaucoup œuvré à la R&D chez Chanel et qui aujourd'hui est à la tête d'une institution que j'adore qui s'appelle la Cosmétothèque, qui est comme un conservatoire, une archive, une mémoire de tout ce qui était science et technique en cosmétique et qui nous dit qu'en effet, on a tendance à réinventer la roue parfois et surtout, on a un peu tendance à être toujours tourné vers la prochaine innovation ou le prochain gadget et à oublier tout ce que beaucoup de gens brillants ont fait avant, parce que si la France est aujourd'hui un des grands leaders mondiaux en cosmétique, c'est pas seulement grâce aux talents d'aujourd'hui, même si ça y contribue, c'est aussi par tous ceux qui ont tracé ce chemin jusqu'à maintenant et qui ont apporté beaucoup d'innovations qu'on a tendance à négliger, encore une fois, parce qu'on est toujours orienté vers la dernière technologie, le dernier gadget. Donc oui, il y a une partie de choses qui, à mon avis, sont à redécouvrir. On commence à lever le voile. On a encore beaucoup de choses dans les cartons. Mais sans être passéiste non plus, en essayant, comme vous le dites, de faire le compromis entre tout ce qu'on a découvert entre-temps et tout ce qu'on avait de potentiellement intéressant avant.
Et est-ce que vous avez trouvé, par exemple, des ingrédients qu'on utilisait à l'époque et qui aujourd'hui ne seraient plus envisageables dans les formules actuelles ?
Alors, assez peu dans ses formules à lui, par le travail qu'il avait fait. Après, c'était plutôt les enrichir. Donc, on parlait de la pierre ponce avec une alternative. Dans le maquillage, il y avait du plomb. Alors, lui, il avait déjà cliné une grande partie.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Après, il y a d'autres ingrédients qui sont apparus entre-temps et qu'on a pu, nous, réinjecter, comme les micelles dans le vinaigre de beauté. Et c'est vrai que c'est cet équilibre-là qu'il faut faire. Je dis encore une fois que, bien sûr, il faut faire un inventaire de ce qui a été fait dans le passé. Après, le fait qu'on l'oublie complètement y compris pour certaines catégories de produits sur lesquelles on n'a pas de bonne alternative naturelle aux produits actuels. Le passé de la cosmétique est une belle source d'inspiration. Il n'y a pas que les petites recettes artisanales ou les recettes de grand-mère qui vont nous apporter les solutions, même si je les adore aussi.
Oui, ouais, bien sûr.
Je veux dire, il y a une mine d'or qu'on n'a pas toujours regardée avec assez d'intérêt, je pense.
Oui. Alors, du coup, vous avez fait un choix, j'imagine, sur tous les produits qu'il avait lancés. Qu'est-ce que vous avez décidé de relancer ?
Oui, alors, on a réussi à retrouver des catalogues commerciaux, à travers les publicités aussi qu'on avait dans les journaux. Donc on est arrivé à 20-25 références assez identifiées. On n'a pas retrouvé toutes les formules, mais une bonne partie. Et ensuite, sur ce qui est intéressant, c'est d'initier, on va dire, à travers une petite routine, parce que c'est ce qui est intéressant. Donc là, on a repris une routine avec un savon dulcifié, qui est un type de savon qui... Et du coup, pour le coup, une cosmétique solide, pour en nettoyant le visage, mais qui est très onctueux. Donc, il y a des vraies alternatives au gel nettoyant, qui est très onctueux, qui est compatible aux peaux sensibles, mais qui est aussi parfumé, si on fait le bon dosage. C'est ce que j'aime dans leur formulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de parti pris. Il y a à chercher jusqu'à trouver cet équilibre qui est un peu la magie d'une belle formule. Ensuite, le vinaigre, qui, derrière, va jouer son rôle d'embellisseur de teint, d'exfoliation, de régénération cellulaire. On a aussi fait ces tests-là sur les anciennes formules, et c'était efficace, donc les anciens savaient faire.
C'est clair.
Et ensuite, de l'hydratation avec une crème dite vanishing. Alors, à l'époque, il y avait un schisme entre les crèmes dites vanishing et les crèmes dites cold cream. C'est les cold cream qui ont gagné, l'univers.
Oui.
Crème à base grasse qu'on trouve toutes aujourd'hui. Et les vanishing ont cette propriété d'avoir une surdose en glycérine qui va recréer le film lipidique de la peau et donc avoir une hydratation durable. Parce que pour hydrater la peau, il faut empêcher l'eau de sortir,
voilà,
donc avoir ce film qui protège. Et la glycérine est magnifique pour faire ça, sauf qu'elle est un peu bizarre à l'application. C'est aussi pour ça qu'elle a été abandonnée dans l'après-guerre. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, elle mousse un petit peu. Et d'un coup, cette mousse disparaît. C'est pour ça qu'on l'appelle vanishing ou évanescente. Il y a ce petit côté, une petite neige qui se forme et qui disparaît. Petit geste qu'on n'a plus l'habitude de voir, mais qui est assez agréable. Sachant que, bien sûr, la marque Autant est plutôt destinée à un public féminin, mais moi, je les utilise tous les jours. Et donc, j'apprécie sur cette routine-là les nouveaux gestes qui vont avec les nouveaux produits, au-delà du produit lui-même. Apprécier un savon onctueux, avoir un vinaigre qui a... ces parfums qu'on appelait notes du verger, mais comme c'est des fruits qui ont macéré dans le vinaigre, on a cet aspect très organique qui est très agréable. Et enfin, la texture et le fini très particulier d'une crème vanishing. C'est aussi apporter de l'exotisme dans un monde qui a tendance à s'uniformiser pour des bonnes raisons. Hein. C'est-à-dire que les marques adressent directement un marché global, ont des attentes qui se standardisent par ce nivellement global, etc. Mais je pense que comme en parfumerie, on a eu les parfumeurs de niche, les parfumeurs indépendants qui ont proposé un pas de côté, va émerger ou s'accélère l'émergence plutôt d'une cosmétique de niche où on a envie de, peut-être pas d'avoir toute cette routine-là, mais de ponctuer sa routine avec des produits un peu exotiques, un peu différents des standards.
D'accord. Ouais, vous pensez vraiment qu'il y a une ouverture vers des produits différents
Oui, je pense. Nous, en fait, on avait un peu peur de ça. Donc, à chaque étape qu'on franchissait, donc, après la découverte des formules, grâce à Jean-Claude Ojuif et au laboratoire de Daniel Joutard, on arrive à avoir des premiers prototypes qui passent les tests de stabilité, qui passent les tests de performance. Et le cap d'après, c'est de faire des pré-tests. Donc là, on a demandé à des skin intellectuals, donc des influenceurs qui s'amusent à décortiquer les formules.
Ouais.
S'ils veulent participer à l'aventure avec nous, au-delà de la formule elle-même, plutôt aussi regarder la galénique, la sensorialité par rapport à tout ce qu'ils voient passer, et aller jusqu'au design du logo, du pack, qu'on comprenne l'état d'esprit. Donc, grâce à Déborah Bette, on a réuni un groupe de 5 super contributeurs qui nous ont aidés et qui ont été surpris, en effet, par le charme de ces produits-là, qui font un peu peur. On dit vinaigre de beauté, bon... un peu sauce mayo, quoi. Ou crème vanishing, on se dit, ah oui, c'est une crème pour blanchir la peau. Donc ça, par exemple, on a changé le terme, on l'appelle crème évanescente, qui était son autre nom.
D'accord.
Donc tous ces petits ajustements de wording, mais aussi des ajustements de formules. Et oui, on a vu de leur côté cette appétence pour quelque chose de nouveau, parce qu'il y a eu un petit mouvement de balancier pour moi entre des formules qui faisaient deux pages Word avant, vers aujourd'hui une sursimplification avec des formules qui deviennent ultra basiques ou qui sont même basées sur un ingrédient. En fait, oui. On vous vend un ingrédient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un marché pour ça et c'est intéressant. Mais de revenir à des formules particulières où la formule propose une expérience particulière, oui, ça, il y a une appétence et pour un peu aussi d'originalité. Des signaux plus macro, je dirais, c'est quand LVMH rachète Bully,
oui.
Qui propose aussi cette alternative oui. dans un autre registre, hein, plus rétro-design que réécriture. Mais je pense que oui, à la fois un signaux faible et un signaux fort. De notre petit point de vue, il y a la naissance d'une cosmétique de niche qui va intéresser de plus en plus de gens.
Intéressant, très intéressant. Alors, au niveau des packaging aussi, j'imagine que vous avez dû innover par rapport à ce qui était proposé.
Oui, alors il faut savoir que le marketing, comme on le voit aujourd'hui, n'existait pas tout à fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on voulait bien communiquer les messages, faire de beaux packaging, mais la charte n'existait pas. Pour être honnête, le logo changeait un peu d'une édition à l'autre, même l'univers graphique évoluait au fur et à mesure du temps, surtout sur des produits qui avaient vocation à être des produits de tous les jours, ils étaient un peu dans l'air du temps au moment où on les fabrique. Donc c'est vrai qu'en collectionnant les packs et les publicités, on a vu évoluer la marque, on a vu différentes périodes, et on s'est dit, continuons à la faire évoluer. Donc, on a gardé des codes que vous pourrez voir sur les packs, qui sont des codes Art Nouveau, mais en essayant d'en extraire l'essence. C'est-à-dire qu'on reprend des vitraux Art Nouveau, on oublie souvent, mais dans l'Art Nouveau, c'est un art global qui touchait autant l'objet que l'architecture, que la déco.
Bien sûr.
Et pour jouer avec la lumière, et jouer souvent avec des vitraux qui créent l'ambiance naturelle, avec des verts, des roses, des nudes à l'intérieur de la maison. Donc, on a repris ces motifs de vitraux et on les a replacés sur les côtés des packagings ou de l'encharge graphique. On a repris ce blason qui était souvent une idée d'abondance de la nature, avec le C qui était sur le fronton de la boutique. Donc, on a essayé de garder l'essence des codes et de les mettre quand même dans une réécriture contemporaine de la marque. Donc, de trouver ce juste milieu pour ne pas tomber dans la nostalgie. Autant sur les formules que sur le pack, encore une fois, on essaie de faire renaître la marque telle qu'elle aurait existé si elle avait continué à vivre pendant tout ce temps avec son héritage, mais aussi tourner vers le futur, d'autant que je pense vraiment qu'elle peut apporter des solutions aux enjeux futurs.
D'accord. Et alors, du coup, vous avez privilégié, j'imagine, le verre, l'alu...
Tout à fait. Alors ça, sur les matériaux, sans faire le mimétisme des bouteilles, des packs de l'époque, pareil, y a le plaisir d'avoir une bouteille en verre, en verre ambré pour protéger les actifs, s'il y a moins de conservateurs. Par exemple, dans le vinaigre, le conservateur, c'est le vinaigre lui-même, mais il faut protéger les actifs, les tubes aluminium, le savon qui est, lui, dans son étui, bien sûr, mais avec un petit papier soie, comme on le faisait à l'époque. donc, il y a toutes ces délicatesses-là, mais qui a aussi un écho par rapport au développement durable. C'est-à-dire que le verre ou l'aluminium versus le plastique, quel que soit le taux de recyclabilité ou de recyclage du plastique, sont un peu plus vertueux à terme. Et sur le verre, c'est aussi rechargeable. Donc, il y a vraiment une inspiration qui est au-delà de la nostalgie vers ce que... on peut imaginer comme solution pour demain en termes de packaging.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement ? Est-ce que c'est créer une marque, comme vous l'avez fait avec Monsieur Barbier, ou est-ce que c'est de faire renaître une marque ancienne ?
Alors, je pense que chaque lancement de marque, c'est pour les entrepreneurs qui nous écoutent, a ses challenges. Et que je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit potentiellement plus dur que l'autre, mais disons que ce n'est pas les mêmes difficultés. Là, ce dont on avait peur, c'est de gaffer.
C'est-à-dire
qu'en permanence, on se rendait compte de plus en plus qu'on avait un trésor entre les mains et que c'était un peu au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se hisse à la hauteur. Donc, heureusement, on a eu l'aide de grands experts. Heureusement, on a eu la bienveillance du secteur aussi pour faire renaître cette marque-là. Mais le challenge était élevé. On ne voulait pas abîmer la marque et on voulait que sa renaissance soit à la hauteur de ce qu'il avait fait avant. Et on a l'impression de manipuler un bout de patrimoine, en fait. Pardon, j'ai tapé dans le micro pour les auditeurs, vous savez tout. Parce que je parle avec les mains, ce qui est très, très radiophonique. Et moi, je vis dans une ville qui s'appelle Nîmes, que certains ont peut-être connue. Et c'est vrai que la richesse de la ville, c'est son héritage romain. Donc, on a un très beau temple, de très belles arènes, etc. Et j'ai toujours été admiratif, quelles que soient les maires qui étaient là, de l'actualisation qu'on avait réussi à faire de l'environnement de ces monuments. C'est-à-dire qu'en face du temple, vous avez un temple qui est un temple de l'art moderne créé par Foster qui reprend les codes tout en les modernisant, le musée de la Romanité en face des arènes, etc. Et à chaque fois qu'ils commencent un chantier, je me dis « Est-ce qu'ils ne vont pas casser ce bout de patrimoine-là et l'abîmer ?» Et nous, on avait toujours cette crainte-là. Donc, c'est un peu avec la peur au ventre qu'on y va toujours, mais c'est aussi une belle motivation de se dire que, voilà, on travaille au-delà des aspects commerciaux qui sont toujours, etc. Je ne dis pas ça, mais il y a une motivation d'une autre nature qui est celle de préserver un patrimoine et de remettre quelqu'un dans le paysage à la place où il aurait dû être un peu de restaurateur. Ouais. Et le restaurateur, quand on les voit rénover une fresque ou quoi, etc., ils ont cette prudence et cette minutie qu'on a essayé d'avoir tout le long. Et c'est la particularité qu'on a eue sur ce projet.
Et alors en plus, ouais, comme vous le disiez au départ, vous avez travaillé en plein premier confinement, donc tout était fermé, etc. Comment ça s'est passé ?
Alors, comme on l'a dit, quand le confinement nous est tombé dessus, c'était soit doubler la mise, soit faire le dos rond. Donc on a décidé de doubler la mise et c'était un peu grisant au début. Parce que moi qui suis très sociable, très bougé partout, etc., il y avait un risque, surtout qu'on ne connaissait pas la durée et que ce soit compliqué à vivre. Et on a vécu dans une belle bulle, entre guillemets, où on était moins parasité par le buzz du moment, l'événement qui ne sert à rien, le bruit, etc. Je dis qu'il ne sert à rien, dans mon cas, parce qu'on a tendance un peu à se perdre ou à procrastiner sur des gros projets. Là, non, on est rentré en immersion dedans. J'avais l'impression de re-rentrer en classe prépa.
C'est-à-dire
c'était matin, midi et soir, on y pensait le week-end. Et c'était assez passionné, hein, la petite équipe qui était là. Donc, c'est vrai que ça a permis de créer cette bulle pendant un an dans lequel l'implication était au maximum. Et c'était le côté bénéfique. Même si j'ai du mal à dire bénéfique à la sortie de crise, ce que j'entends souvent maintenant, tous les bénéfices de la crise, etc., c'était formidable, le digital, ça a boomé et tout. J'ai un peu un haut-le-cœur. Je me dis, des dizaines de milliers de personnes sont mortes en endetté pour 10 ans. Soyons quand même prudents par rapport au...
Ouais.
Mais si on doit trouver un avantage à cette catastrophe, c'est cette idée que dans un monde où on est un peu parasité, hyper connecté tout le temps, on a pu recréer cette bulle à un moment. Et aujourd'hui, on commence à sortir de la bulle. Hier, j'étais encore à présenter à un concours la marque. On a des rendez-vous bientôt avec les distributeurs. C'est vrai que là, du coup, on a l'impression que, comme un artiste, on a, à toute proportion gardée, mais on a préparé son petit bébé, et là, on va l'exposer dans les galeries, on va avoir les premiers retours, etc. Donc là, la vie commerciale reprend le dessus, mais on a eu une vraie bulle de conception qui était assez magique, malgré le contexte dramatique.
Ouais. Et du coup, ça vous a permis de développer le concept, je pense, plus rapidement.
Oui, voilà, c'était un concentré. Je pense qu'un tel projet aurait dû durer 2-3 ans, même si nous, on essaie de taper au maximum sur tous les projets qu'on réalise. Si vous enlevez tout le superflu et tout le temps perdu et tous les allers-retours qui deviennent en visio et qu'en plus, c'est un peu votre planche de salut aussi. C'est-à-dire que c'était ce qui nous donnait la bouffée d'oxygène dans un contexte qui était difficile, où des proches étaient touchés, etc. Donc oui, il y a eu cet aspect d'accélération qui fait qu'en un an et demi, on est passé des premières recherches généalogiques dont on parlait jusqu'à recevoir et mettre sous pli les premiers produits qu'on reçoit.
Ouais, d'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver Cotan, du coup ?
Alors, Cotan, aujourd'hui, est sur le site cotan.com, en préinscription. Dès le 5 novembre, on sera distribué sur le site. On a essayé de raconter toute notre histoire dans des petits billets sur Instagram, qu'on a plus pris comme un petit livret que, de présentation que comme une simple succession de photos. Donc, c'est Cotan _ Paris.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est en discussion avec des grands magasins et des grandes parfumeries pour essayer de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée, parce que c'était là qu'on a trouvé les derniers produits sur étagère, dans ces fameux grands magasins ou ces grandes parfumeries parisiennes. Donc probablement, vous le verrez d'ici fin d'année ou début 2022 dans ces lieux mythiques. Donc autant à participer, à créer la notoriété quelque part.
Oui,
donc,
ouais,
c'est un peu la monnaie de sa pièce.
Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi de l'exporter ou
Potentiellement, oui. Alors c'est vrai que la cosmétique française s'exporte très bien. Les entrepreneurs qui nous écoutent le savent. Et après, la magie de Paris est souvent liée pour plusieurs pays à cette à ce 19e siècle où Paris a un peu inventé la modernité. Donc c'est vrai que vous parlez à un Russe ou à un Américain de la période Art Nouveau, de ce Paris lumineux, de ce Paris 1900. C'est là que Paris était capitale du monde en termes de rayonnement culturel et artistique. Donc c'est vrai que ça a un potentiel à l'export. Après, je reste prudent parce qu'encore une fois, étant donné l'originalité des produits et un peu la standardisation liée aussi un peu aux réseaux sociaux, hein, des gestes, des types de produits, des types d'ingrédients, il faut que ce soit des personnes qui soient curieuses de découvrir autre chose. Mais c'est vrai que le capital à amour, on va dire, pour cette époque de Paris et pour la cosmétique française, font que sur certaines destinations, la marque a beaucoup de potentiel.
Oui, clairement. Clairement. Et Monsieur Barbier, alors, du coup ?
Monsieur Barbier, lui, il commence l'export.
Il va bien ? Ah ouais.
Ah oui. Il commence à voyager, sorti du confinement. Donc, on a poursuivi, bien sûr, l'extension de gamme, parce que Monsieur Barbier était principalement rasage et barbe au début. Ouais. On avait lancé il y a 2 ans le skincare qui a très bien marché, qui est en train de prendre le dessus d'ailleurs. Et on a lancé pendant le confinement, à petit volume, les produits de styling. Et ce n'était pas facile, parce que souvent dans le styling, il y a de la graisse animale ou de la cire d'abeille. Mmh. Or, comme Barbier est naturel et vegan, il a fallu trouver des alternatives. On y est arrivé pour la cire coiffante, pour la crème coiffante. On vient d'y arriver, là, au bout d'un an et demi. Donc ça,
ouais.
Ça a été beaucoup de tâtonnements. Mais il continue d'accélérer en France grâce à la distribution en sélectif, grâce à son site qui est par abonnement, donc qui est assez pratique pour les hommes qui sont assez fidèles. Alors. Et oui, il a pris son petit sac à dos, son guide du routard, et il est allé en Géorgie, chez Gefa, qui est le numéro 1 de la parapharmacie, au Maroc, chez Virgin Megastore, qui est là-bas un peu plus comme un citadium, c'est-à-dire c'est culture, lifestyle, beauté. Okay. Etc. Il part au Vietnam dans une chaîne de distribution de produits naturels et potentiellement au Benelux et aux US avec des accords qu'on est en train de signer. Donc c'est vrai que c'est un stade où, pour moi, dans l'évolution d'une marque DNVB, comme on les appelle maintenant, on a le digital, on crée sa communauté, on se renforce. Après, on mixe avec du retail, soit en sélectif, soit en hors sélectif, suivant le cas. On prend sa place et on continue de consolider la gamme et d'avoir des volumes qui permettent d'avoir les coûts de production à pouvoir encaisser l'export, parce que la marge est encore plus découpée à l'export. Et dans ce troisième stade, on commence à aller vers l'export. Et nous, on a eu de la chance, parce que les acheteurs, pendant les confinements, s'ennuyaient eux aussi un peu. Parce que, bon, il y avait moins de salons, moins d'activités, moins de réunions.
Ouais.
Et donc, ils nous ont contactés en général. Donc, c'est directement les enseignes et pas un distributeur qui nous a contactés, ce qui permet de préserver un peu la marge et d'avoir un contact plus direct avec le marché. Et on a pu mettre en place les accords par itération quand même, s'envoyer les produits, réfléchir ensemble en visio pour, dès le déconfinement, pouvoir shipper les premiers produits. Donc, ce sont des gens qui, en général, cherchent, comme on en parlait tout à l'heure sur l'export, des cosmétiques françaises pour compléter l'assortiment. Et cosmétiques françaises et hommes, heureusement, ils tombent assez vite sur M. Barbier, parmi d'autres, mais tombent sur M. Barbier. Et donc là, on peut engager la conversation sans avoir eu à faire, nous, trop d'efforts vers l'export, qui est compliqué, parce qu'on ne sait pas par quel pays commencer. Ben là, c'est le plus motivé qui nous accompagne.
C'est ça.
Contacter le premier, voilà.
Oh, c'est cool.
Donc, on va dans des destinations qu'on découvre, et ça nous permet aussi de comprendre quels sont les modes de consommation, les types de produits, enfin le paysage cosmétique dans ces pays-là. Mmh. Et c'est super intéressant aussi intellectuellement. Donc c'est vrai qu'à chaque stade de la marque, on est nourri par différentes sources d'inspiration et de découvertes. Mais on est très très content. Donc là, on prépare une série d'illustrations de Monsieur Barbier qui part avec son sac à dos, de son petit chien avec la casquette et la boussole. Et voilà, on va essayer de faire découvrir tout ce qu'on a découvert sur ces pays-là à travers les réseaux. La Géorgie, c'est incroyable. Enfin, ils ont un des plus vieux alphabets du monde. Ils ont été envahis par tout le monde, mais ils ont repoussé tout le monde. Ils ont des villes et des paysages magnifiques.
Sublime,
voilà. Donc moi qui suis assez mauvais en géographie, je dois le dire, ça me permet de me déniaiser un petit peu.
Et est-ce que l'aventure Cotan vous a donné envie d'aller rechercher d'autres marques finalement ?
Alors, encore une fois, dans l'esprit de collection, oui, je suis toujours dedans. Ça m'a donné envie d'aller au-delà des aspects purement marketing et commerciaux que je voyais à travers les packs, de connaître les histoires de ces entrepreneurs-là. Parce qu'on parle souvent des start-upers, les nouveaux héros et tout ça, c'est super intéressant. Mais je pense qu'au 19e, il y a eu une révolution industrielle et une révolution culturelle en général qui ont fait que plein de provinciaux ont débarqué à Paris ou depuis chez eux et ont lancé des choses formidables. Je ne suis pas encore généalogiste, mais j'ai un peu plus de billes, savoir un peu plus où chercher. Je serais ravi d'en réemployer, même pour des... Encore une fois, si vous voulez faire des recherches, ce n'est pas très très cher. Ce n'est pas les experts les plus chers du monde par rapport à la valeur qu'ils apportent. Donc, ça m'a en tout cas donné envie de connaître les trajectoires personnelles et entrepreneuriales d'une autre époque, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt challenge et LinkedIn. D'avoir le LinkedIn du 19e, ça m'intéresserait.
Carrément. Bon, merci beaucoup, Ganaël. C'était super intéressant.
Merci à vous. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas fini mon café.
Bon, on va finir alors.
Et je remercie les auditeurs qui ont tenu jusqu'à maintenant.
mais c'était passionnant. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.